Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia au micro, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'À votre avis. En Côte d'Ivoire, malgré les appels au calme, les mutins qui réclament le paiement de primes dites Ecomog refusent toujours de regagner les casernes. Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne promet de rétablir l'ordre et le porte-parole du gouvernement, lui, parle de négociations avec les mutins. Plusieurs institutions, y compris la BAD, la Banque africaine de développement, ont demandé à leurs employés de rester chez eux, ce qui dénote un climat de peur malgré les assurances des autorités. Alors, craignez-vous l'enlisement en Côte d'Ivoire? C'est le thème de notre émission aujourd'hui avec les auditeurs. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Alexis Tanon, journaliste et analyste politique ivoirien à Abidjan. Bonsoir Alexis. Vous nous entendez Alexis?
Oui, ça va, je vous entends très bien.
D'accord. Alors, quelle est aujourd'hui, en ce moment même, quelle est la situation à Abidjan?
Alors, la situation sécuritaire n'a pas beaucoup évolué. Et depuis le matin, vous savez que depuis hier nuit jusqu'à aujourd'hui, les tirs ont continué dans les casernes, aussi bien au plateau, à Kwedo, le plus grand camp de la Côte d'Ivoire, à Boaké, où il y a le fief même des soldats entrés en mutinerie. Les choses n'ont pas du tout évolué, ont même augmenté en intensité. Et il y a eu les tirs ont commencé avec les pillages qu'aujourd'hui on nous annonce.
Et donc, la population à Abidjan, comment elle réagit? Je disais tantôt que plusieurs institutions comme la BAD ont demandé à leurs employés de ne pas se rendre au travail. Et la population, comment elle se comporte en ce moment face à...
Oui,
à
les populations sont restées chez elles à la maison. Le matin, ceux qui n'étaient pas informés et qui ont pris le chemin des différents services sont retournés aussitôt quand ils ont appris que les rues au plateau, le centre des affaires où il y a beaucoup de services, étaient barricadés. Ils sont plutôt retournés. Même à Kwedo, la zone d'Akwedo, là où les gens passent pour aller dans une commune voisine, Benjerville, là aussi, les gens, la circulation n'était pas dense parce qu'il y avait eu des barricades là-bas. Les populations étaient obligées de retourner. Les élèves sont rentrés à la maison. Et il y a le calme et aussi la peur.
D'accord. Restez avec nous, Alexis. Nous avons déjà deux auditeurs. D'abord, Youssouf Ouedraogo, vous nous appelez de Yamoussoukro. Vous êtes un fidèle auditeur et vous êtes ivoirien, donc ce sujet vous intéresse particulièrement. Dans votre, disons, dans votre post sur notre page Facebook, vous dites que ce qui est certain, c'est que l'État, après s'être longuement soumis aux exigences, on va dire légitimes, même si le mode de revendication des mutins est déplorable. Comment est-ce que vous analysez tout cela?
Alors, d'abord, bonsoir Abdourahmane, nous inviter à la rédaction. Moi, j'ai dit que l'État ayant donc décidé de rompre les négociations pour privilégier la fermeté comme pour sauver d'une part l'autorité des autorités même, je pense qu'il est à craindre ici une lésion profonde qui risque de diviser davantage ces forces armées déjà pas forcément unies au-delà des apparences. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a bien entendu un président de la République, il y a un vice-président de la République, il y a un médiateur de la République qui, tous les trois, du début de cet dernier épisode de mutinerie jusque-là, ne se prononcent pas. Et ça fait un grand tollé dans le pays. On ne sait pas qui gère quoi, qui fait quoi. Et je dis aussi, il faut savoir faire la part des choses en ce qui concerne nous autres qui observons la situation entre les promesses contenues dans les accords politiques de Ouagadougou, dont certains points difficiles ont tant bien que mal été respectés, tels que la reconnaissance des grades, etc., qui engagent, n'est-ce pas, la responsabilité de l'État ivoirien. Et les rumeurs qui attribuent ces promesses à un prétendu engagement personnel du président Ouattara. En tout état de cause, il faut dire aussi à Abdourahmane, qu'on le veuille ou non, les populations civiles ainsi que les institutions de la République sont devenues malgré elles otages de cette situation très incertaine et il faut très vite s'en libérer sous peine que ce pays ne replonge dans les travers du passé.
D'accord, Youssouf, ne quittez pas. Nous allons prendre un auditeur de Parakou au Bénin, Amine Saka. Amine, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Véa.
Alors, quelle est votre lecture de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous dites que les négociations n'aboutiront à rien. selon...
Alors, oui, monsieur.
Oui, on vous écoute.
Après, moi, je pense déjà que le chef d'état-major, comme il a prouvé de ramener le calme en Côte d'Ivoire, donc que le gouverneur le laisse agir en sa manière, parce que les négociations n'auront aucune influence sur la situation, même si ça allait avoir, même si ça allait régler le problème, c'était juste pour, ça serait pour un temps. Donc, ils n'ont qu'à le laisser.
Mais qu'est-ce que vous suggérez alors? Donc, il faut bien négocier, non?
Non, les négociations, ça pour juste un temps.
Mm-hmm.
Même si ça, même si les soldats achètent, ça serait pour un temps. Donc, on connaît bien le gouvernement. Et même peut-être ces négociations, les soldats ne vont même pas accepter ça. Donc, comme le chef d'état-major, il a accepté, et il a voulu de lui-même ramener le calme. Donc, ils n'ont qu'à le laisser peut-être essayer ou toucher, et le calme va revenir, que le gouvernement le laisse agir. Et au cas que ça n'aboutisse pas, donc, ils n'ont pas donné à César ce qu'il y a à César, il y a Dieu, ce qu'il y a à Dieu, ce qu'il y a à Dieu, à cette situation.
D'accord. Merci beaucoup à notre auditeur de Parakou, Amin Saka. Nous avons un auditeur de la Guinée, je crois, Diallo Tierno. Bonsoir.
Oui. Bonsoir, la VOA. Bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs. Je suis très ravi de vous retrouver ce soir.
Merci. Quel est votre point de vue sur la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire voisine, au pays avec qui vous partagez une frontière?
Oui. C'est un pays ami frontalier, là où vit beaucoup d'équipes, nos compatriotes. Il y a un grand risque si le chef d'état-major tente d'utiliser la force contre les militaires. La situation va être trop tendue, à mon avis. Il faut les négociations et aussi partager les militaires qui sont tous obtenus pendant un dur combat que nous savons tous dans les années 2006-2010. Ils ont tous combattu pour que M. Addo et compagnie viennent au pouvoir. Ça sera mieux qu'on les invite au palais présidentiel pour qu'on puisse négocier directement avec les vrais acteurs de protestation. Oui, ça c'est plus important. Oui, les primes des ministres ne manquent pas. Les directeurs généraux des départements ne manquent pas. Les députés aussi, leurs primes ne manquent pas. Mais quand ils choisissent les militaires, ceux qui défendent la République, ceux qui sont chargés de protéger les citoyens, chaque fois ici en Afrique, il faut des bruits pour qu'ils rentrent à la disposition de leurs maigres primes. C'est très regrettable. Le gouvernement devrait prendre ça au sérieux pour satisfaire leurs besoins.
Nous les regrettons chaque fois. Les enseignants. Merci beaucoup, Tierno, depuis la Guinée. Alors, on retrouve Alexis. Alexis, nous avons vu des auditeurs un peu divisés sur la situation. Certains pensent qu'il faut négocier, d'autres disent qu'il faut payer parce que les ministres ont leur salaire à temps. Voilà. Quelle est votre lecture de la réaction de nos auditeurs?
Oui, absolument. De toute façon, c'est des primes qui sont dues. L'État a promis de les régler. Mais je crois que c'est dû à l'impatience un peu des militaires. Dans tous les cas, l'OTAN n'a jamais refusé de payer les primes. Mais bon, compte tenu de la situation financière, économique un peu difficile que traverse la Côte d'Ivoire, le paiement est un peu retardé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la négociation est la meilleure des solutions. Dans tous les cas, on ne peut pas, dans cette affaire, au risque d'enliser la situation, aller à l'affrontement, vouloir imposer le calme ou alors désarmer les mutins aujourd'hui de force. Ce n'est pas possible parce que ceux qui sont là-bas, ils se revendiquent un nombre de près de 8 500 qui ont été les anciens combattants des anciens chefs de guerre. Bon, ceux-là qui ont été déjà utilisés contre l'armée de M. Laurent Gbagbo aujourd'hui, dont la plupart est aujourd'hui à la maison qui refuse d'aller au front. On ne peut pas les utiliser contre l'armée royaliste au temps de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. C'est les mêmes gars qui ont été utilisés pendant la crise. Donc, aujourd'hui, aller à l'affrontement, c'est comme si on s'en les gens utilisaient leur propre couteau contre eux-mêmes. Ce n'est pas possible.
D'accord.
Et de toute façon...
Alexis, nous allons peut-être libérer Youssouf. Youssouf, avant de vous laisser partir, est-ce que ce n'est pas un peu le discours de fermeté qu'on a entendu de la part de chefs d'état-major et même du gouvernement qui a un peu envenimé la situation, si on peut le dire ainsi?
Écoutez, Abdourahmane, il y a quand même deux choses qu'il faut observer de près. D'abord, il y a cette cérémonie dont ces événements viennent contester, n'est-ce pas, au palais présidentiel qui a qui a vu la participation, on va le dire comme ça, du président de la République, qui a écouté les militaires, pour ne pas dire les quelques militaires qui sont venus renoncer aux primes. Je rappelle aussi que ce problème est d'ordre financier, mais il y a aussi le contexte du pays qui voit déjà le RHDP, qu'on va dire, dans l'objection, dans l'objectif de l'alternance de 2020 à venir, qui semble diviser les deux principaux grands partis de la coalition RHDP au pouvoir. Je dis que le gouvernement ivoirien gagnerait à privilégier l'initiation concertée d'un vrai dialogue social et professionnel inclusif de base, afin d'en tirer les bonnes conclusions qui servent de remède au délestage entre l'exécutif et les exécutants, les administrateurs et les administrés que sont la population civile, y compris les militaires qui sont aujourd'hui en colère.
D'accord.
Vous savez combien la Côte d'Ivoire perd en une journée. Aujourd'hui, toutes les institutions n'ont pas travaillé, mais c'est de l'économie qu'on est en train de perdre, pendant que les nerfs de cette guerre, de cette contestation, relèvent aussi de l'économie.
Merci beaucoup, Youssouf. Nous allons prendre un auditeur du Bénin, Bernard Kapochichi. Bernard, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à vous autres.
D'accord, merci. Vous semblez dire que, en fait, tout cela incombe un peu au gouvernement ivoirien.
Oui, et c'est vrai. Il faut reconnaître qu'il y a une grande faute de la part du gouvernement. Je pense que le gouvernement avait prévu payer les primes à ses militaires. Donc aujourd'hui, qu'ils ne soient pas en mesure de payer, qu'on nous parle de problèmes d'argent, de manque de ressources financières, ben on ne peut pas comprendre. Hier, c'est prévu. Donc il faudrait que le gouvernement se lève et s'arrange de moins pour pouvoir payer ses primes à ses soldats. Et une chose aussi est de reconnaître que ces primes soient payées, et la même cause reviendra demain, parce que Ouattara avait utilisé ses militaires pour combattre Gbagbo. Donc, aujourd'hui, si ces militaires demandent le départ de Ouattara, cela veut dire que ces mêmes militaires utilisés hier pour faire partie de Gbagbo demandent maintenant le départ de leur leader. Donc, toutes choses rattrapent et c'est ce que je comprends.
Merci beaucoup, Bernard. En tout cas, les mutins ont clairement fait savoir que leur objectif n'est pas d'organiser un coup d'État. Ils veulent juste leur prime. Nous avons un auditeur de la Côte d'Ivoire, Ivan Laman. Ivan, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, quel est votre point de vue sur la question du jour?
Pour ce sujet-là, le président doit négocier. Parce que la violence n'est pas la solution d'un problème. La violence elle-même est un problème. C'est-à-dire qu'ils ont signé un accord, un consensus. Donc, il doit donner leur argent ou bien soit négocier à eux pour trouver des solutions. Parce que pour les instituteurs, ils ont mis ça jusqu'en 2018. Ils se sont calmés et puis ils enseignent. Donc, pour les militaires, s'ils se sont soulevés, on doit les croiser et puis négocier et puis aboutir à quelque chose. Bah, ils ne veulent pas négocier. Et on se dit, maintenant, je suis à Boaké. Actuellement, où je n'étais pas, ça tire encore.
Ça tire encore à Boaké?
Oui. Ça tire, actuellement, ça tire encore. Ils disent que si on ne les paye pas, ils vont se payer sur le terrain. Donc, le pire a déjà commencé.
D'accord.
Ça, ce n'est pas un problème et tactique, c'est un problème entre Ado et puis ces éléments. Parce qu'au moins, ils signaient l'accord, ils n'étaient pas au pouvoir.
Bon. D'accord, on a très bien compris. Merci beaucoup, Ivan, depuis Boaké, pour ce témoignage. Avant de retrouver notre invité, nous avons un auditeur de Ouagadougou, Olivier Savadougou. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Alors, je sais qu'il y a une forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous suivez la situation depuis Ouaga?
Vraiment, je suis la situation depuis Ouaga avec vraiment beaucoup d'inquiétude parce que, comme vous l'avez souligné, on a tellement de compatriotes qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et c'est un pays frère et ami et nous avons vraiment beaucoup de ressortissants. Vraiment, c'est avec des inquiétudes que je suis cette situation depuis le début de cette crise.
Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier, il faut payer les primes qui ont été promises. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, bon, comment dirais-je? Moi, je propose vraiment un dialogue. Si j'arrive à dialoguer, je pense que ça, c'est la meilleure solution. Une fois que, comment dire, s'entend sur des bases principes, vraiment
Le truc qu'il n'y aura pas de, comment dirais-je, par exemple, avant, il y avait eu un accord et puis, bon, ça n'a pas été respecté. Donc, ça, je pense que c'est ça qui les a vraiment amenés à sortir de cette manière, vraiment pour manifester leur mécontentement.
D'accord. Oui. D'accord. Merci
mais
beaucoup.
Moi, je préfère que vraiment que la dialogue, le dialogue vraiment aboutit vraiment à quelque chose de concret. Parce que la Côte d'Ivoire et le reste, c'est que le Burkina aussi, ça ne va pas aller.
Absolument. Alors, Alexis Tano, en promettant de payer les primes des soldats, est-ce que le gouvernement, justement, n'a pas ouvert une boîte de Pandore, si on peut le dire ainsi?
Écoutez, c'est comme je l'ai dit, j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'était des primes qui étaient dues. Ce ne sont pas de nouvelles revendications, c'est des choses qui étaient déjà connues. Et il appartenait à l'État de régler ce problème-là pour qu'elle ne s'enlise pas. Vous vous rappelez, depuis novembre 2014, les mêmes mutins, les mêmes soldats mécontents se sont soulevés pour les mêmes primes, les mêmes problèmes de primes. Donc si on reprochait à l'État, il n'avait pas réagi à temps, il n'avait pas été aussi efficace dans le règlement de cette crise, elle n'aurait pas connu l'ampleur et l'intensité qu'aujourd'hui que tout le monde vous regrette. Et l'État a promis de payer, je crois qu'on avance souvent que c'est la baisse des prix de cacao, c'était la prévision, même le budget de l'État qui a diminué, c'est ce qui a pris un peu de temps. Mais en la vérité, on ne pouvait pas ne pas payer dès lors que les institutions elles-mêmes ont reconnu qu'elles devaient à ces militaires les primes qui sont aujourd'hui réclamées.
Alors, est-ce qu'il faut impliquer l'UMOA ou la CDAO, connaissant un peu le poids de la Côte d'Ivoire dans la région? On sait déjà que la présidente de la CDAO, Ellen Sirleaf Johnson, qui est la présidente du Liberia, a sorti un très court communiqué en demandant aux mutins d'arrêter les tirs. Vous pensez qu'il est temps que la CDAO, par exemple, s'implique?
Oui, nous sommes dans un ensemble qui est censé travailler en étroite collaboration, et s'il y a un problème quelque part, je crois que ça risque d'entraver la bonne marche de cette organisation de cette sous-région. Mais je crois que pour le moment, la Côte d'Ivoire n'est pas déclarée encore en faillite, n'est pas un État en faillite. Je crois que c'est une question de méthodologie. La dernière fois, les gens sont sortis le jeudi passé, ils ont sorti, ils ont reconnu que la situation était difficile et qu'ils renonçaient à cette prime. Une partie intervient pour dire non, on n'a pas été consultés, ils ne sont pas d'accord, nous réclamons l'argent.
Voilà. Vous pensez qu'ils ne se sont pas assez bien concertés avant de faire cette déclaration?
Voilà, de toute évidence. C'est ce que nous suivons, nous constatons. Puisqu'il y a eu plusieurs éclats de voix, plusieurs sont discordants, des gens sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les premiers qui ont été reçus par le chef de l'État. C'est là le problème. D'accord. Donc, il revient à l'État de quoi d'appeler les choses, de mettre bas la tête, d'appeler les gens pour dire, voilà, en l'état actuel des choses, voilà ce que nous pouvons vous donner. Et plus tard, quand la situation va s'améliorer, on va vous donner le reste. C'est tout. Il n'est pas question d'opposer la force dans cette affaire.
Ok. Nous avons deux auditeurs du Mali, Bakary Keïta à Bamako. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire?
Moi, je crois que si, par exemple, même si les cours du cacao ont chuté, on sait que la Côte d'Ivoire souffre économiquement. Je crois que le président actuel et le gouvernement devaient essayer vraiment d'amener vraiment les mutins à la table des négociations. Ils ne devaient pas renoncer vraiment au paiement, mais ils pouvaient peut-être rééchelonner, quoi. Pour payer vraiment l'argent là, parce que l'État ne peut pas dire et se dédire à la fois. C'est un engagement qui a été pris. Les 5 millions ont été payés. Je crois que les 7 millions doivent être échelonnés, même si on va payer peut-être 500 000 francs par mois. On devait quand même négocier tout ça avec les mutins.
Mais Bakary, ce qu'on a vu aussi, oui, c'est que quand on a fait la promesse il y a 6 ou 7 mois, d'autres corps de l'armée aussi se sont levés pour demander aussi des primes. Est-ce que ce n'est pas un problème?
Et aussi, ils ont raison. Je crois qu'on devait essayer d'uniformiser quand même les revendications pour mettre fin vraiment à tous ces soulèvements. Moi, quand même, je condamne quand même le silence coupable de la CEDEAO et surtout de l'UMOA. Parce que quand la Côte d'Ivoire tout sort là, c'est toute la CEDEAO, lui et moi, vraiment, qui tombe malade. Moi,
la présidente, comme je le disais tout à l'heure, Ellen Johnson Sirleaf a sorti un communiqué tout à l'heure pour demander aux mutins de cesser les tirs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour l'instant, c'est un problème qu'on peut circonscrire à la Côte d'Ivoire ou bien vous pensez qu'il est temps que la CEDEAO s'implique?
Bon, il est temps parce qu'il va falloir que la CEDEAO convoque quand même une réunion de crise, une réunion d'urgence, quoi, vraiment, même si elle se dépasse vraiment en Côte d'Ivoire. Essayer vraiment d'organiser une table à rendre entre le gouvernement et les mutins là. La communiqué quand même de la présidente de Sirleaf là n'est pas à condamner, mais c'est-à-dire en matière de guerre là, il ne suffit pas quand même de faire des communiqués seulement, cela ne résout pas. Il faut être actif.
On n'est pas encore à l'état de guerre, mais merci beaucoup quand même Bakary Keïta depuis Bamako. On prend un autre auditeur malien, Ibrahima Doumbia. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous nous appelez aussi de Bamako?
Également, comme la Côte d'Ivoire, ça s'enlise de jour en jour, je pense que la CEDEAO a un rôle à jouer. Elle peut essayer de mettre en place un système qui pourra peut-être réunir le camp Alassane ainsi que les mutins pour essayer de revoir cet homme colossal. Je pense que l'État ivoirien ne peut pas payer cette somme sur le long terme et sur le court terme. Mais peut-être, comme le Bakary vient de le dire, sur le long terme, peut-être, il peut échelonner cela. Je pense aussi, c'est un conseil aussi pour certains dirigeants. Quand ils promettent obligatoirement, ils doivent honorer cette promesse-là. Je pense quand même.
D'accord. Merci beaucoup, Ibrahima. Nous allons prendre un dernier auditeur, Yugo Wapi, avant de retrouver notre invité pour clore l'émission. Alors, Yugo, quel est votre point de vue depuis le Cameroun?
Oui, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir, monsieur le journaliste.
Bonsoir.
Oui.
On vous écoute.
Oui, selon mon point de vue, moi, je ne dirais pas grand-chose. Vous savez, nos systèmes politiques en Afrique, vraiment, c'est vraiment alarmant, puisque il faut d'abord reconnaître pourquoi d'abord ces mutins révoltent. Il faut d'abord savoir la cause. Maintenant, le gouvernement ivoirien doit comprendre une chose. On ne manque pas les médias. Bon, ils doivent déclarer, ils doivent dire ce qui se passe réellement d'abord. Puisque ces mutins, ils manifestent pourquoi? Pour une cause, pour un but. On ne manifeste pas pour rien.
Hein? Il faut être honnête avec tout le monde. Donc, merci beaucoup. On a compris votre point de vue. Nous allons quitter peut-être avec notre invité du jour, Alexis Tano. Quelle lecture faites-vous de la réaction des auditeurs, de la manière dont ils ont, si on peut le dire, analysé ce qui se passe en Côte d'Ivoire, selon vous, en une minute?
Oui, il faut dire que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse la sous-région, même le continent africain. Et quand on écoute bien vos auditeurs, on se rend compte qu'ils ont intérêt à ce que la situation en Côte d'Ivoire s'arrange, que la situation soit réglée afin que tout le monde puisse aller normalement travailler. Mais en tout ce que on a dit, il faut retenir aussi que le dialogue est la seule voie possible pour amener les deux parties à entendre raison. Dans tous les cas, on a essayé hier, n'a pas marché, mais aujourd'hui, il est plus qu'important d'impliquer peut-être d'autres personnalités, d'autres paramètres. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la vérité, de la sincérité. Oui, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui se passe réellement aux mutins. Ils comprendront, c'est les Ivoiriens, ils savent les efforts que le chef de l'État ivoirien fait, et ils ne sont pas les seuls aussi à avoir des revendications à faire en même temps. Vous avez soulevé le cas des fonctionnaires, aujourd'hui les greffiers qui menacent aussi d'aller en grève. Donc il y a toutes ces situations qu'il faut régler. Donc d'accord. Je pense qu'il faut aller directement à la vérité et être sincère dans la négociation.
Merci beaucoup Alexis Tano depuis Abidjan. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé. Une émission réalisée par Michel, Joseph et Fred. Abdourahmane Dia était au micro. Bonsoir.